Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.
Bonjour, notre invité est Laurent Joly. Il est directeur de recherche au CNRS, il est historien. Il vient de sortir deux livres. Un premier livre intitulé « Le cas d'Arquier de Pellepoix, antisémitisme et fascisme français ». C'est un livre qui est paru aux éditions Talendier. Et un deuxième livre, « La France et la Shoah », un livre paru sous la direction de Laurent Joly. Et c'est un livre paru aux éditions Kalman-Lévy. Laurent Joly, bonjour.
Bonjour Jacques Bitton.
Alors, deux livres particulièrement intéressants, particulièrement instructifs. Alors, on commence par le premier, le cas d'Arquier de Pellepoix. Donc, un livre paru aux éditions Talendier. Alors, qui était ce personnage?
Alors, d'Arquier de Pellepoix, c'était à la base un minable, un raté, qui va faire parler de lui à partir de 1934 comme agitateur d'extrême droite. Il a participé aux fameuses émeutes du 6 février 1934, devant la Chambre des députés, et il a eu la chance de sa vie, il a reçu une blessure. Il a été blessé au mollet, il a créé une association des blessés du 6 février 1934, ça lui a permis de faire parler de lui à l'extrême droite, à l'Action française, notamment, il est très proche de l'Action française, et il se fait élire conseiller municipal de Paris en 1935, et il va, en 1936, au moment où Léon Blum va devenir président du Conseil, à la tête du Front populaire, il va prendre le créneau de l'antisémitisme. Et il va devenir un agitateur antisémite, financé d'ailleurs par l'Allemagne nazie, ce qui va lui permettre de, sous Vichy, de devenir commissaire général aux questions vues. Donc c'est un triste personnage dont étudier le parcours permet de comprendre ce qu'était l'activisme antisémite à l'époque, c'est-à-dire des gens qui étaient des minables, des ratés, des fanatiques, mais aussi des gens qui étaient corrompus véritablement par l'Allemagne nazie.
Alors précisons qu'il fait partie des ligues d'extrême droite déjà en 1934, hein, la guerre n'est pas encore déclarée.
Lui, il est vraiment dans cette mouvance-là qui conteste la République, vraiment, et qui considère que la France est en train de courir vers l'abîme parce qu'elle est enjuivée, parce que la République c'est la division. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment à l'extrême droite, mais qui va vraiment passer à l'antisémitisme pour des raisons financières aussi. Vous voyez, il y a les deux, mais c'est vraiment à partir de 1936 un agent de la propagande allemande en France.
Il a même créé le rassemblement anti-juif de France. Hein. Voilà. Donc, alors quel était justement le but de ce rassemblement?
Alors le rassemblement anti-juif de France, il vise à réactiver ce qui existait déjà sous la Troisième République, sous l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle. Il y avait eu des ligues antisémites qui avaient été créées. Donc d'Arquier se dit, je vais réactiver une ligue antisémite. Donc ça vise à attirer des gens qui considèrent que l'ennemi juif, c'est l'ennemi numéro un contre lequel il faut lutter pour redresser le pays. On est en 1936. En 1936, vous avez Léon Blum qui est à la tête du gouvernement. C'est un socialiste, c'est un juif. Donc, l'idée, c'est pour lutter contre le Front populaire, pour lutter contre le bolchevisme, il faut lutter contre le juif. Et cette fantasmagorie. Et d'Arquier de Pellepoix joue à fond ce créneau-là. Alors, il n'a pas énormément d'adhérents. Mais il y a quand même malgré tout 2000 personnes qui sont adhérents de la Ligue, le Rassemblement anti-juif de France, qui vit, je le rappelle, essentiellement sur financement nazi. C'est grâce à l'argent d'Hitler qu'il peut créer également un hebdomadaire qui s'appelle La France enchaînée.
Alors Laurent Joly, précisant qu'en 1978, ce personnage, donc d'Arquier de Pellepoix, dans un entretien accordé à l'Express, il a déclaré « Je vais vous dire ce qui s'est passé à Auschwitz, on a gazé, oui c'est vrai, mais on a gazé les poux ». Donc c'est clair et net que non content, non seulement il n'a aucun remords de ce qu'il a fait, mais en plus il a donné à fond, je dirais pas dans le révisionnisme, mais dans le négationnisme.
Oui, il annonce vraiment le négationnisme. D'Arquier de Pellepoix est surtout connu pour cette interview. Et il est surtout intéressant pour l'historien parce qu'il le représente, c'est-à-dire qu'il représente, c'est en cela qu'il est intéressant à étudier, il représente le lien entre l'antisémitisme, on va dire, anti-Dreyfusard, l'antisémitisme des ligues de la fin du XIXe siècle, des années 30, et ce nouvel antisémitisme des années 70-80, jusqu'encore à nos jours, qui est le négationnisme. Et lui, vraiment, annonce Forisson, et Forisson va commencer sa campagne parce que Darquet de Pellepoix a fait parler de lui en 1978. C'est vraiment la naissance du négationnisme dans l'espace public avec cet entretien qui a été un énorme scandale. On a oublié le scandale que ça a été. Cet entretien à l'Express d'octobre 1978 qui a vraiment ouvert les vannes au négationnisme, mais aussi, de manière plus positive, permis d'incriminer des responsables de la politique antisémite, Papon, Le Guay, Bousquet. Tout est né de cet entretien-là et du scandale que ça avait été dans la société française de voir un ancien commissaire général aux questions juives parler ainsi dans un grand journal.
Alors, Laurent Joly, précisant quand même que ce personnage n'a jamais été inquiété par la justice, il n'a jamais fait de peine de prison. Comment ça s'est passé pour lui? Il n'a jamais été poursuivi?
Alors, ce qui s'est passé pour lui, alors, il avait été condamné avant la guerre pour diffamation et racisme en titre de la loi, du décret de loi Marchandeau, mais il n'avait pas fait de prison. À la libération, on le juge, mais par contumace, parce qu'il a réussi à fuir en Espagne au moment de la libération. Et il est condamné à mort, hein, bien sûr, c'est un traître majuscule, il est condamné à mort, mais cette peine ne sera pas exécutée, et 20 ans après, c'est-à-dire il est jugé en 47, décembre 47, 20 ans après, en 67-68, la peine est prescrite. Et donc, on ne pourra pas, après l'affaire de l'Express, l'affaire 78, on ne pourra pas refaire une nouvelle procédure, même au titre du crime contre l'humanité, parce que voilà, c'était compliqué, il était âgé, il n'y avait pas de convention d'extradition entre l'Espagne et la France. Tout ça fait que il a réussi jusqu'au bout à échapper à la justice française.
Laurent Joly, donc, si on veut en savoir davantage, hein, moi je recommande la lecture de ce livre, hein, Le cas d'Arquier de Pellepoix, Antisémitisme et fascisme français, un livre paru aux éditions Talendier. On parle du deuxième livre qui est paru sous votre direction, La France et la Shoah, un livre paru aux éditions Calman Lévy. Qu'est-ce qu'on découvre dans ce livre?
Alors ce livre, d'abord, il a comme vocation, vous voyez le titre est large, La France et la Shoah, sous-titre Vichy, l'occupant, les victimes, l'opinion. L'idée toute simple, c'est de rendre compte des recherches les plus récentes sur la France et la Shoah, sur le rôle de Vichy, le rôle de ses dirigeants, la réaction d'opinion publique, pourquoi et comment les trois quarts des Juifs ont survécu en France. Toutes ces questions-là, qui sont évoquées par l'historiographie depuis des années, on a voulu les rassembler en réunissant les meilleurs spécialistes, soit à la fois français, mais aussi étrangers. Vous avez un grand nombre de chercheurs dont les travaux ne sont pas connus en France, et on voulait les faire connaître, donc on retrouve tous les noms des chercheurs les plus connus, Tal Brutmann, René Posansky, Jacques Semelin, Renaud Meltz, Michael Mayer, Médélique Zerjachignon, c'est une quinzaine de chercheurs et de chercheuses. Donc voilà, l'idée c'était vrai, de donner une sorte de synthèse, point par point, sur ce qui s'est produit sur le sujet, la France et la Shoah, depuis 15-20 ans. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, on va dire, global. Après, il y avait aussi la volonté de répondre à un certain nombre de questions et de creuser un certain nombre de points. Donc il y a du nouveau dans ce livre. On comprend mieux certaines choses. On comprend mieux, par exemple, la question de l'opinion publique et son rôle dans le bilan de la solution finale en France. Ça, c'est grâce aux travaux de René Posansky et d'Alexandre Douluth. On comprend mieux aussi la politique allemande. Il y a tout un chapitre qui dû à un historien allemand qui est absolument pas connu en France, pas traduit en France, c'est Michael Mayer, et qui montre bien que les Allemands en France avaient des stratégies différentes en fonction de qui ils étaient. Il y avait l'ambassade, il y avait les militaires, il y avait la Gestapo, et certains étaient pragmatiques, ce qui est on doit faire attention à l'opinion publique, on doit procéder par étapes. Donc on voit que l'occupant a des stratégies différentes. Et puis on découvre aussi sur Laval et sur Bousquet et Pétain, des chapitres très fouillés dus à Renaud Meltz et à Bénédicte Vergès-Chaignon, qui montrent que Pétain et Laval ont été encore plus antisémites et lâches finalement par rapport à ce qui se passait aux Juifs que ce qu'on savait. Voilà.
En tout cas, on voit qu'il y a eu... En tout cas, quand on lit ce livre, on découvre quand même qu'il y a une volonté génocidaire de l'occupant, et la politique des dirigeants de Vichy ont quand même mobilisé toute la puissance de l'État contre les Juifs apatrides et leurs enfants. Hein.
Oui, absolument. Alors, la solution finale, c'est ce qui réunit l'occupant, c'est-à-dire que à chaque niveau de l'appareil de l'occupant, il y a cette idée que l'Europe a été débarrassée des Juifs et que il y en aura plus à la fin de la guerre. Après, il y a des calendriers qui peuvent évoluer et des stratégies qui peuvent changer. En face de ça, on a Vichy qui, lui, veut se débarrasser des Juifs étrangers. C'est sa politique. On va utiliser la politique allemande pour pouvoir se débarrasser de ces Juifs dont on ne veut pas. Et après, on mobilise l'appareil d'État. Et quand on voit comment ça se passe au niveau de l'appareil d'État, ben là, on découvre des choses différentes. Aurélie Audeval montre bien qu'à Marseille, on a un intendant de police qui, lui, il s'est déjà occupé des étrangers, des Juifs, avant la guerre, il continue à le faire pendant la guerre, et pour lui, quand on lui demande des Juifs étrangers, pour lui, c'est dans la continuité, si vous voulez, il comprend pas vraiment ce qui se passe. Puis on en a d'autres qui vont freiner, qui vont se dire, non, quand même, ce qui se passe, c'est quand même différent, il y a quand même des signaux qui nous montrent que les Allemands, probablement, tuent les Juifs, donc on va être un peu plus modéré, donc on voit vraiment, au niveau des exécuteurs aussi, des différences de comportement. Et on voit surtout le rôle de l'opinion publique qui a freiné, ça c'est très très bien montré dans les articles de Wolfgang Seibel, de René Posanski, de Jacques Semelin, mais aussi d'Alexandre Doulu. On voit, alors c'est des choses qu'on savait déjà par les travaux de Serge Tersed, mais qu'on comprend de manière beaucoup plus fine, et notamment en prenant en compte la différence entre les deux zones. La population en zone occupée ne réagit pas de la même façon que la population en zone libre. Et tout ça permet d'expliquer des bilans qui vont varier d'une zone à l'autre.
Alors Laurent Joly, donc nous arrivons au terme de cet entretien. Je voudrais rappeler que vous êtes directeur de recherche au CNRS. Au CNRS, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'extrême droite française et la persécution des Juifs sous l'occupation. Et là, vous venez de sortir deux livres. Donc, un premier livre qui s'intitule « La France et la Shoah, Vichy, l'occupant, les victimes, l'opinion ». Alors, c'est un livre qui est paru aux éditions Calmann-Lévy, sous votre direction, Laurent Joly. Et un second livre, « Le cas d'Arquier de Pellepoix, antisémitisme et fascisme français 1934-1944, un livre qui est paru aux éditions Talendier. On peut écouter cet entretien sur notre site rcnradio.info. Laurent Joly, je vous remercie.
Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.